Cette conférence d'Isabelle Olivero est intitulée « Des ouvriers se lancent dans l'édition, l'aventure de la Bibliothèque nationale ». On notera que cette Bibliothèque nationale n'a aucun rapport avec l'institution que l'on connaît, mais désigne une collection de livres publiés entre 1863 et 1914.
C'est une étude qui me tient particulièrement à cœur, celle de la Bibliothèque nationale, puisque c'est le premier mémoire que j'ai écrit et qu'en fait il a déterminé la suite de mes recherches sur les collections, dont ma thèse. Je voulais aussi dire que c'est un sujet qui m'a été suggéré par M. Jean Lenoir, que des gens connaissent ici, donc je voulais lui rendre hommage pour cela. C'est également ma première intervention publique, puisque j'ai soutenu, mais très récemment, fin janvier. Et je suis très contente de le faire dans ce lieu, plutôt que de le faire dans les classes, je dirais, aseptisées des séminaires. Le choix de cette collection est bien simple. En fait, la Bibliothèque des Années d'Instruction possède ces volumes depuis le premier catalogue, donc depuis 1862. Donc il se justifie tout à fait. Et j'avais d'abord pensé présenter la collection comme Pascal Marie avait présenté la Bibliothèque des Années d'Instruction, en reportant le discours du cinquantenaire, parce que la Bibliothèque nationale a eu également son cinquantenaire, mais qui n'était ni officiel ni public, comme celui de la Bibliothèque des Années d'Instruction, mais qui a donné lieu à un petit livre, publié dans la collection d'ailleurs, un peu plus petit, mais exactement du même format, de la même couleur. Et j'ai abandonné cette idée, parce que le faisant justement dans ce lieu, j'ai plutôt préféré, d'ailleurs en accord avec Mme Bertrandier et Mme Laurent, présenter la collection dans les rapports qu'elle a avec la Bibliothèque des Années d'Instruction. Et c'est pourquoi je vais essayer de présenter les conditions de la fondation de la collection et l'idéal des fondateurs surtout, et en quoi ce sont les mêmes ou en quoi elles divergent justement avec ceux des Années de l'Instruction. Tout d'abord, on peut dire que ce sont des ouvriers typographes qui sont à l'origine de cette collection et que, donc, comme Jean-Baptiste Girard lui-même l'était en 1861, et également que ce sont des ouvriers qui ont décidé de se former en société pour pouvoir l'éditer. De la même façon que les ouvriers de la Bibliothèque des Années d'Instruction se sont formés eux-mêmes en société pour pouvoir l'exister. Donc je présenterai cette aventure, comme le titre l'indique, en trois points. D'abord, je parlerai un peu du lieu de la fondation, qui est l'imprimerie du Buisson, donc je vais y revenir. Ensuite, je présenterai l'idéal des fondateurs, qui était de réaliser une œuvre d'émancipation matérielle par l'association, mais aussi intellectuelle, en faisant une œuvre d'éducation populaire. Et enfin, en dernier point, j'examinerai en quoi l'entreprise fut un succès ou un échec. Et là, les avis sont un peu partagés, ça dépend de quel point de vue on se place. Donc le lieu d'abord. La Bibliothèque nationale est née dans une grande imprimerie de presse parisienne au mois de juin 1863. Donc, quelle est cette imprimerie? Si on veut avoir un aperçu, on a retrouvé un ouvrier, Camus, qui a écrit quelques souvenirs, qui travaillait à cette époque et qui a écrit quelques souvenirs sur cette imprimerie. Et dans un premier temps, il la présente assez bien. La maison n'était pas belle, mais sentait bon. En entrant, une buée, nourrissante et lourde comme une crêpe à la graisse, vous remplissait les narines, la gorge et vous suffoquait un peu. Mais de cette buée se dégageait bien vite une agréable et saine odeur d'encre onctueuse, de papier humide, d'huile chaude et de métal en fusion. Et dans cette maison, il y avait une imprimerie générée par M. Dubuisson et commanditée par M. Dumont et Boulet. Donc je vais commenter un peu ce qu'il dit. Dubuisson est, depuis 1852, l'administrateur de l'imprimerie. Et il succède là à l'imprimeur Boulet, qui est toujours propriétaire et qui en était le fondateur. Et aussi Auguste Dumont, lui, est un journaliste qui est aussi propriétaire avec Boulet de l'imprimerie et qui va fonder des journaux qui seront imprimés après chez Dubuisson. Mais surtout, ce qui est important de voir, c'est qu'en 1863, au moment où va être éditée la collection, l'imprimerie Dubuisson est très connue. Et elle est très connue pour deux raisons. En fait, elle est connue de l'administration et de la police. Et ça, c'est assez simple de comprendre, parce qu'en fait, en 1848, Boulet, qui était l'administrateur à cette époque, y a imprimé les journaux les plus révolutionnaires de l'époque. Ce que l'administration n'a pas oublié. Donc parmi ces journaux, il y avait Le peuple d'Alphonse Esquirós, le représentant du peuple de Proudhon, la voix du peuple, le suffrage universel, etc. Elle est également connue parce que depuis 1855, c'est une imprimerie qui fait partie des quatre plus grandes imprimeries de la capitale, aux côtés, et c'est pas peu dire, de l'imprimerie Firmin Didot, de la maison Chez et de l'imprimerie Dupont. C'est pourquoi à cette époque, on les appelait déjà, ces imprimeries, de véritables petites usines typographiques. Et là encore, on a une description de Camus, toujours cet ouvrier qui travaillait à cette époque, et qui ne nous laisse pas douter que c'est déjà une petite usine, et qui fait dans un deuxième temps une description, je dirais, plus à la Zola. Et voici ce qu'il dit. La porte d'entrée est noire, les hommes qui en sortent sont noirs. Le porche qui conduit à la cour est noir, et les pavés de cette cour également. Les bâtiments, à trois étages d'élévation, sont noirs. On y entre par une porte latérale de la même couleur, on suit le couloir noir qui conduit à l'escalier noir, et les parois des murs sont noires. Le patron, Monsieur Dubuisson, est d'une tenue impeccable. On se dit, ouf, là il y en a un qui est bien. Pas du tout, il dit. Mais noir, lui aussi, des pieds à la tête, sans oublier ses guêtres. Aussi l'avait-on surnommé le croque-mort. Et malgré cette description, Eugène Dupont, qui a fait l'historique de la collection, lui ne craint pas la comparaison, et évidemment, quelle comparaison ? Celle, bien sûr, avec la grande bibliothèque nationale. Et après avoir parlé de l'imprimerie Dubuisson, voici ce qu'il dit. Tel fut le berceau de la bibliothèque nationale, non point cette vaste et inhospitalière nécropole de livres située rue Richelieu, mais cette digne autant que modeste collection de volumes INSES à couverture bleue de France. Alors en 1859, des mesures répressives sont prises contre la presse par le gouvernement de l'époque du Second Empire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces mesures. Ce qu'il est important de retenir, c'est que certains journaux vont être supprimés, dont les journaux qui sont imprimés chez Dubuisson. Et la conséquence directe et dramatique, c'est qu'une partie des employés de l'imprimerie vont être au chômage. C'est d'abord Dubuisson qui cherche un remède, une solution à cette situation. Et il demande aux autorités compétentes, à cette époque, c'est la direction de l'imprimerie et de la librairie qui siège au ministère de l'Intérieur, puisque toutes ces affaires ont été remises justement au ministère de l'Intérieur et, d'une certaine façon, à la police. Et il leur écrit pour leur demander un deuxième brevet, un brevet de libraire, qui lui permettrait en fait de vendre les ouvrages qu'il imprime, et donc d'occuper ses ouvriers pendant que le travail des journaux ne rendait pas. Il est autorisé à vendre des ouvrages, mais uniquement des ouvrages scientifiques. Et à ce moment-là, il crée en fait une première collection qui n'est pas la Bibliothèque nationale, mais qui est la Bibliothèque utile, dont certains volumes sont ici. Le directeur en est évidemment un ouvrier de l'imprimerie, il est compositeur. Il s'appelle Henri-Charles Le Neveu. Et cette première collection est consacrée, je cite, « à la vulgarisation des connaissances les plus utiles à l'homme et aux citoyens ». Pour donner un exemple des titres qui sont publiés, donc c'est « Histoire de la formation de la nationalité française »,« La France au Moyen-Âge »,« Hygiène générale »,« Médecine populaire »,« Notion d'astronomie », etc. Malheureusement, cette création ne suffit pas à résorber le chômage, et une deuxième collection va être créée, mais cette fois à l'initiative des ouvriers typographes. Ils se réunissent en comité, et ils décident de proposer au patron, à Dubuisson, d'imprimer eux-mêmes et de vendre une collection d'œuvres littéraires et philosophiques tombées dans le domaine public. Donc c'est le début de la Bibliothèque nationale. Dubuisson accepte cette proposition. Les ouvriers inoccupés vont se constituer en atelier ou en équipe à part. Ils vont pouvoir effectuer l'impression des volumes. Pour l'instant, ils ne sont que propriétaires des volumes qu'ils impriment. Et c'est Dubuisson qui avance les fonds pour l'achat des matières premières et qui assure aussi les opérations de vente et d'encaissement. Mais il y a déjà un embryon d'association, puisque les ouvriers doivent prendre à leur charge les risques et les périls de la mise en vente. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Il est prévu, dès le départ, un prélèvement de 1 franc par semaine de travail effectif et par ouvrier. Un ouvrier gagne à ce moment-là, chez Dubuisson, pas dans toutes les imprimeries, mais il gagne assez bien chez Dubuisson, environ 5 francs par semaine, donc ce qui est déjà pas rien. Deux conséquences donc à ce système. Pour les ouvriers, ça va être l'occasion de se constituer un premier capital, Pour Dubuisson, c'est une réserve de garantie. Si l'entreprise ne marche pas, où il pourra puiser justement pour s'en rembourser. Mais l'entreprise va marcher, même au-delà de toutes les espérances des ouvriers, et l'expérience, comme il l'appelait au départ, qui devait porter que sur 5 ou 6 volumes, s'étend très vite. Une deuxième série de 6 volumes paraît la même année 1863, et au début de l'année 1864, les éditeurs annoncent une liste de 3 séries supplémentaires. Donc, quels sont les premiers clients de la collection? Ce sont d'abord les bibliothèques des années d'instruction, celles-ci, celle du 5e arrondissement en 1865. Ce sont aussi les bibliothèques communales du Haut-Rhin qui ont été créées à l'initiative de Jean Massé. Alors ça, c'est d'ailleurs intéressant parce que Jean Massé, lui, ne voulait, contrairement à la société Franklin qui sera créée après à Paris, ne voulait absolument pas donner d'avis aux bibliothèques pour se constituer leur collection, les guider dans leur choix, si vous voulez. Par contre, il avait conseillé de prendre la Bibliothèque nationale et la Bibliothèque du Cultivateur. Donc ça, c'est leur premier client. Et le deuxième client est bien différent. Dès le départ de l'association, un libraire associé qui s'appelle Lucien Marpeau, qui tient boutique sous les galeries de l'Odéon au Palais Royal, va vendre les ouvrages. Le Palais Royal est à cette époque encore le quartier des libraires de la capitale. Et là, donc, la collection va atteindre une population bourgeoise. Et Eugène Dupont donne une description, cette fois presque balzacienne, je dirais, de l'accueil de la collection par cette population. La surprise fut générale parmi les flâneurs lettrés qui se dandinent le long des étalages et les clients sérieux, professionnels du livre ou amateurs de nouveautés, qui papotent dans les boutiques. Impulsivement, il se fit entendre partout un unanime concert d'éloges. Ah, la bonne idée, la délicieuse trouvaille! Des profondeurs de la population parisienne, ce fut une ruée vers cette manne profuse, attendue, espérée depuis si longtemps, ainsi que l'avait été le Messie. Mais revenons donc à nos ouvriers associés. En 2 ans, leur capital avait augmenté et ils songent à créer officiellement une association de production. C'est donc mon deuxième point, réaliser une œuvre d'émancipation matérielle et intellectuelle. Comme l'ont rappelé les historiens de la Bibliothèque des Amis de l'Instruction, en rappelant justement qu'il s'agissait de simples ouvriers formés en société, les associés de la Bibliothèque nationale se déclarent aussi, dans leur premier acte d'association qui date du 1er janvier 1866, je les cite, « Les sous-signés ont depuis le mois de juin 1863 entrepris en commun la publication d'ouvrages anciens et modernes sous le titre de Bibliothèque nationale. Ils ont fondé une entreprise au moyen de cotisations fournies par eux dans des proportions inégales et qui leur ont donné des parts correspondantes dans la propriété de l'œuvre commune. Donc ces cotisations représentent au bout de 3 ans une somme qui s'élève à 7000 francs. Ils décident de diviser ce capital en 140 coupures, on pourrait dire actions maintenant, de 50 francs chacune. Et chaque action peut être souscrite soit par les fondateurs de la Bibliothèque nationale, soit par les ouvriers d'autres imprimeries, donc uniquement des typographes. Et ça, c'est un point important, parce que dès le départ, les sociétaires, ou les ouvriers, veulent donner à la société un recrutement uniquement ouvrier, et il l'aura justement, effectivement, jusqu'en 1914. Et ils font le choix d'une société ouvrière en participation. Là, c'est un point important, parce que c'est un point, justement, différent avec la Société des Amis de l'Instruction. La Bibliothèque des Amis de l'Instruction, ces ressources, qui sont les droits d'admission et les cotisations mensuelles, ne donnent droit à aucun paiement d'intérêt. Tandis que pour les sociétaires de la Bibliothèque nationale, en fin d'année, se répartissent les bénéfices proportionnellement à la part que chacun possède dans le capital. Et évidemment, cette formule leur a été reprochée, enfin ceux qui étaient contre ces ouvriers, et ils ont été accusés d'avoir en vue une entreprise commerciale ordinaire et lucrative. Évidemment, ils s'en défendent. Et en 1899, le gérant de l'association de l'époque, qui s'appelle Louis Plucheur, explique à quoi ont servi en fait les bénéfices. Il dit que les bénéfices étaient des plus minces et il explique un peu comment ça s'est passé. Il dit premièrement, les bénéfices ont servi à établir et à maintenir la collection, car dit-il, dans un premier temps, toute dépense en dehors de l'établissement des livres aurait mis en péril l'existence même de l'entreprise. Et dans un deuxième temps, ce capital a servi à rendre les associés propriétaires de leur instrument de travail, C'est-à-dire que les bénéfices allaient à l'agrandissement du matériel et à l'élargissement des opérations de l'association. On ne peut pas vérifier ces affirmations, mais ce qu'on peut dire et ce qui est sûr, c'est que les ouvriers vont devenir complètement indépendants de l'imprimerie du Buisson. D'abord, ils vont ouvrir leur propre librairie en 1867. Ils s'installent, et la librairie prend le nom de librairie de la Bibliothèque nationale, ils s'installent rue Baillif, c'est-à-dire dans le quartier justement du Palais Royal où ils resteront jusqu'en 1914. Et ils font imprimer leurs ouvrages non plus chez Dubuisson, mais à la typographie rouge du nom effréné qui se situe rue du Four Saint-Germain à l'époque. Et déjà, ils songent à encourager une autre association ouvrière, une coopérative de production cette fois, pour fonder une imprimerie. Cette imprimerie dont le projet remonte à 1866, donc à la même date que l'établissement définitif de l'association de la Bibliothèque nationale, ne sera ouverte qu'en 1870, en réalité. Parce que justement, le capital va être réuni de la même façon, c'est-à-dire par des souscriptions, justement, de la part des ouvriers. Elle prend le nom d'imprimerie nouvelle, et elle occupe à cette date 8 ouvriers. Elle imprime évidemment, dès cette date, les volumes de la Bibliothèque nationale. Mais en 1877, donc 7 ans après, elle en emploie déjà 65. Donc on peut dire que du point de vue de l'émancipation matérielle, un des buts recherchés par les fondateurs, c'est une réussite. Il existe encore une librairie de la Bibliothèque nationale en 1920 à Paris, rue de Seine, mais il n'y a plus aucune trace bien sûr maintenant. Par contre, il y a encore trace de l'imprimerie nouvelle, rue Cadet, avec une plaque qui rappelle que l'imprimerie se situe là et il y a écrit une coopérative ouvrière de production. Donc mon troisième point sera d'examiner un peu leur vœu de réaliser une œuvre d'éducation populaire. La première idée des fondateurs de la collection est donc d'éditer à bas prix et pour l'usage exclusif des travailleurs de l'atelier une collection des meilleurs auteurs anciens et modernes, français et étrangers. À très bas prix, qu'est-ce que 0,25 centimes signifie à ce moment-là? En fait, ça signifie vraiment peu, puisqu'il n'y a que les livraisons qui atteignent le prix de 20 centimes à cette époque, et on sait très bien qu'une livraison à 20 centimes ne fait pas un ouvrage complet, et qu'il faut au moins entre 1 à 10 livraisons pour avoir un ouvrage complet. Donc, c'est vraiment compétitif de ce point de vue-là. Aussi, on pourrait dire sur la couleur bleue, que ça peut rappeler la célèbre Bibliothèque bleue créée au XVIIe siècle. Et sans doute les ouvriers y ont-ils pensé, puisque c'était l'œuvre d'ouvriers imprimeurs également. Mais on sait maintenant que la Bibliothèque bleue n'avait pas que des ouvrages bleus, et de même la Bibliothèque nationale n'a pas commencé avec cette couleur bleue, mais avec une couverture mauve. Et après, il y a eu non pas seulement des bleus, mais il y a eu aussi des jaunes qu'on ne retrouve plus, justement, genre. Mais quand même, forcément, c'est une couleur assez symbolique, puisque c'est quand même la couleur qui a dominé, je pense, la littérature de colportage à cette époque. Donc, dès le départ, les éditeurs adoptent une devise et un emblème qui figurent au dos de tous les volumes. Et voici ce qu'il dit. La Bibliothèque nationale, fondée en 1863 dans le but de faire pénétrer au sein des plus modestes foyers les œuvres les plus remarquables de toutes les littératures. Cet idéal va être précisé dans l'avertissement du premier volume qui est paru, qui est l'histoire de Charles XII de Voltaire. Et là, je les cite. Les leçons de l'histoire, les maximes de la philosophie avaient été jusqu'à ce jour le patrimoine du petit monde. Nous avons voulu qu'il en fût autrement. D'une part, en remplaçant le puéril almanach et le roman de troisième ordre, qui jusqu'à ce jour ont composé toute la bibliothèque du pauvre. D'autre part, en élevant le niveau de l'instruction en France, malheureusement au-dessous de celui de la plupart des nations de l'Europe. C'est pourquoi la Bibliothèque nationale publiera successivement les grands posateurs et les poètes hors ligne de nos siècles littéraires, sans exclusion d'aucune sorte. Bossuet, Fénelon, Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère, Fontenelle, Duclos, Icoudoiron, Voltaire, Rousseau, Diderot, Molière, La Fontaine, Boileau, Le Sage et Beaumarchais. Et de cette volonté d'instruction vont naître en réalité d'autres collections. Donc on a vu la Bibliothèque ultime, qui est parue avant, qui elle avait pour but de seconder les cours du soir. L'autre collection, c'est l'École mutuelle, qui est faite évidemment aussi sur le même modèle, qui est une collection en 24 volumes, qui est parue entre 1865 et 1867, et qui est sous-titrée « Cours complet d'éducation populaire ». Donc un mot sur le titre de la collection, il n'est pas innocent. En fait, les ouvriers se réfèrent là, non pas aux écoles mutuelles qui ont été créées au début du siècle, afin de promouvoir une nouvelle pédagogie de la lecture et de l'écriture, mais ils se réfèrent à une pratique ouvrière qui est celle de l'enseignement mutuel des ouvriers par les ouvriers. Et en fait, en voulant créer cette collection, c'est aider justement les ouvriers qui décidaient de se réunir à quelques-uns, chez l'un d'entre eux, le soir, pour justement s'instruire mutuellement. Et en fait, c'est une pratique qui a été très bien décrite par Martin Nadaud ou Agricole Pervilliers à l'époque. En 1869, une autre collection va être éditée par la Bibliothèque nationale, c'est la Bibliothèque démocratique. Son emblème reprend bien le modèle de celui de la Bibliothèque nationale. Elle est fondée dans le but de faire pénétrer dans les plus humbles foyers les œuvres des maîtres de la démocratie. Donc elle traite évidemment d'autres sujets. Elle cherche à traiter tous les grands problèmes politiques et sociaux. Ils seront traités successivement l'instruction gratuite et obligatoire, l'organisation du travail, les principes de la coopération, les droits et les devoirs civiques, sans oublier également certains ouvrages d'hygiène populaire et de sciences vulgarisées. Et les premiers auteurs de la collection sont Louis Blanc, Alphonse Esquiros, Garnier Pagès et Victor Schœlcher, donc représentants de 1848. Enfin, l'ensemble de l'œuvre d'éducation populaire n'est complet qu'en 1874, avec la dernière publication de la bibliothèque, de la librairie de la Bibliothèque nationale, qui s'appelle le Musée national. Malheureusement, j'ai pu en retrouver aucun. Même à la Bibliothèque nationale, je n'ai pas pu même en consulter. Le Musée national, il ne s'agit pas d'ouvrages, de volumes séparés, contrairement aux autres collections, mais de livraisons. Chaque livraison comportant un portrait et la biographie d'un homme célèbre. Eugène Dupont, vu qu'il les qualifiait de sorte de tracts, affirmait qu'ils ont été longtemps distribués en récompense ou en bon point dans les écoles. Ce qui paraît évidemment tout à fait probable, puisque les premiers destinataires de ces biographies et de ces portraits étaient justement les instituteurs. Et fin 1874, la série atteint justement 80 portraits et biographies d'hommes célèbres. Donc ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'il s'agit donc bien, comme pour la bibliothèque des amis d'instruction, d'une création faite par le peuple et pour le peuple. Les deux initiatives sont parties d'un même constat, la difficulté pour les ouvriers de se procurer des livres. Mais ils y répondent différemment. Les uns créent des bibliothèques populaires libres et sociétaires, les autres créent des collections pour garnir ces bibliothèques, mais aussi avec cette volonté qui a été rappelée justement par Victor Poupin, le directeur de la Bibliothèque démocratique, et là je le cite, répandre des milliers de livres dont le bon marché extrême permette à chacun de se créer une bibliothèque intime, personnelle, une bibliothèque de famille. Donc j'en arrive à mon dernier point qui est d'examiner la collection a-t-elle été un succès ou un échec. Vu tous les livres qui sont là, on peut penser que c'est un succès. Mais tous les historiens s'accordent pour dire que ça a été un échec. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il la compare aux autres collections de la même époque. Je pense à la collection Michel Lévy, pourquoi pas à la bibliothèque Charpentier. Et ils font le calcul qu'au bout de 50 ans, cette collection a atteint 354 volumes, alors que les autres collections ont atteint des milliers de volumes. Et ils se disent pourquoi, vu que le prix justement était plus bas, etc. Et ils aboutissent à un échec. Or, il est vrai qu'à partir de 1876, et je crois que là c'est dû à la mort du fondateur Nicolas David, il est mort en 1874, il n'y a plus que 5 à 6 volumes nouveaux qui paraissent chaque année, ce qui est évidemment peu. Mais évidemment, on peut se demander si la réussite d'une telle collection est uniquement quantifiable. Et à ce moment-là, la réponse peut être modulée. Alors, si on prend, bien sûr, Eugène Dupont, qui a fait l'historique de la collection, on peut conclure qu'un succès, mais lui conclut à un succès non seulement rapide, ce qui a été le cas, mais aussi général. Et voilà ce qu'il dit. Rappelons encore, dit-il dans son historique, que les générations surgies de 1859 à nos jours ont vécu intellectuellement et en majeure partie de cette pâture fournie par la Bibliothèque nationale. Car les coquets incès pénétraient partout, des villages les plus reculés comme au cœur des cités les plus peuplées, semant les graines sélectionnées du libéralisme et du patriotisme, attirant des regards étonnés sur le trésor de notre littérature, longtemps caché aux masses populaires. Ce qui est dommage pour cette belle phrase, je dirais, d'Eugène Dupont, c'est que la version des fondateurs est elle-même complètement différente. 2 ans seulement après la création de la collection, en février 1865, donc Nicolas David, le directeur de la collection, donne une autre version. Nous avions caressé l'espoir de conquérir au chef-d'œuvre de l'esprit humain les humbles et les pauvres, auxquels depuis l'invention de l'imprimerie, le banquet des grandes littératures semblait à jamais défendu. Mais une courte expérience d'une dizaine de volumes seulement nous avait démontré que les petits livres n'allaient pas à leur adresse. Ce furent les lettrés qui répondirent à notre appel. Mais il s'agissait avant tout d'être ou de ne pas être, et nous voulions vivre et répandre les bons onguents. Pourtant, on peut aussi dire que progressivement, la collection a peut-être trouvé son public, du moins le public espéré par les fondateurs. Et on a un témoignage qui date de 1905, d'Albert Sim, qui est écrivain et bibliothécaire. Écrivain, je ne sais pas s'il est célèbre, mais en tout cas connu, puisque 2 de ses ouvrages ont été couronnés par l'Académie française, et aussi les bibliothécaires à cette époque de la Société des gens de lettres. Et il présente la Bibliothèque nationale comme, je cite, « une excellente petite collection qui a rendu et rend encore journellement à quantité d'écoliers, d'étudiants et de modestes et fervents lecteurs d'inappréciables services. » Et enfin, pour terminer, avec... je dirais une note d'espoir sur le succès relatif de la collection, et aussi pour rendre hommage en fait au fondateur, j'aimerais donner le témoignage d'un lecteur. Ce lecteur, c'est un paysan auvergnat du nom d'Antonin Ducerre. Il est en 1864 gardien de troupeau de vaches rouges, je le cite, vaches rouges parce que c'est ces vaches avec lesquelles on faisait le fromage de Cantal. Bon, il quitte très jeune l'école primaire, mais il est passionné par les langues. Il s'achète lui-même un dictionnaire, une grammaire, et il apprend par lui-même à lire, à écrire, à écrire aussi, puisqu'après il écrira. Il lit La Fontaine, son auteur préféré, et il sera l'auteur, mais bon, plus tard, d'un roman intitulé Jean et Louise. Et c'est à l'occasion de la sortie de son livre, en 1914, que le journal L'Illustration publie un court récit autobiographique où il décrit sa rencontre avec la collection. Pour bien connaître notre belle langue française, la difficulté pour moi était d'avoir des livres. Je ne pouvais faire de gros achats, mais je trouvais des personnes obligeantes qui m'en prêtaient. Vers ma 20e année, il m'advint une aubaine inespérée. Chez un libraire d'Aurillac, je découvris une collection de petits volumes à 0,25 francs. Et quelle collection ! Tous nos classiques du 18e, les premiers romantiques, les anciens. Vous me voyez dès lors courant à la ville lorsque la pluie suspendait le travail de la culture, emplissant mes poches des précieux petits bouquins et revenant en hâte m'enfermer chez moi. Et j'en aurais fini en disant que la collection n'est pas morte avec la fin de l'association que je situerai entre 1914 et 1920, puisqu'on n'a pas de documents précis encore pour l'instant. Mais elle a été reprise par un éditeur, donc par Jules Talandier en 1926, mais aussi avant par un éditeur qui n'est aussi pour l'instant pas très connu, Egilman. Donc à ce moment-là, elle était 67 rue de Seine, donc c'est bien la dernière date connue qu'on a de la librairie. Et donc ils en ont fait une autre version, plus moderne évidemment. Mais ils l'ont reprise et surtout ils l'ont enrichie des classiques du 19e siècle, Alfred de Vigny, Balzac. Et en 1943, il existe encore une collection qui n'a plus bon, cette couverture et qui s'appelle la Petite Bibliothèque Nationale, toujours éditée par les éditions Talandier. À ce moment-là, c'est plus Jules Talandier éditeur, c'est les éditions Talandier.
Même format ?
Oui, même format. Certains sont bleus, d'autres rouges. Et puis, bon, évidemment, avec une typographie, une couverture qui est bien plus proche de ce modèle-là. Non, je vais donner le premier catalogue qui donne en fait une bonne répartition, je l'ai quelques. Quand ils en étaient seulement à 38 volumes. Le 15 novembre 1864, 38 volumes sont parus et ils sont ainsi répartis. Donc histoire, 10 volumes en premier, morale et philosophie, 5 volumes, science, 2 volumes, roman, 14, théâtre, 2 et critique, 1. Alors les tirages, alors c'était au départ, ils avaient fixé 5000. exemplaires chaque volume. Et en fait, comme ça a marché, les retirages se sont situés entre 12 000 et 15 000 exemplaires. Le roman, justement, roman, il disait roman de mœurs rurales, hein, qui est de Victor Coupin, qui s'appelle « Les Labourdières », était un essai pour la Bibliothèque nationale pour publier des auteurs contemporains. Et ça a été un échec. Et du coup, ils sont arrêtés, ils n'ont plus du tout pensé à être des auteurs contemporains, alors qu'ils voulaient vraiment le faire.